RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah!
Yeah! Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
J'entends pas le dernier dans le casque.
Pierre Dorian.
C'est Basket Time sur RMC, votre rendez-vous du mardi en podcast sur rmc.fr. Aujourd'hui, c'est un spécial Oklahoma City Thunder, la sensation à l'ouest avec la Dream Team, Fred Weiss, Stephen Brun et Alexander Binet. Bonjour messieurs. Bonjour.
Salut Pio.
On a décidé de se renouveler un peu cette saison dans Basket Time, de parler aussi de franchises dont on parle moins. Mais c'est vrai que ce sont les résultats qui nous font parler d'OKC aujourd'hui, Fred.
Bah, bien sûr, deuxième à l'ouest, forcément, t'as envie d'en parler.
Avec un basket sympa.
Très sympa.
Le basket que tu aimes, porté sur quand même le collectif. Oui. Pas uniquement sur des individualités, même s'il y en a une qui te plaît beaucoup, je le sais. Voici les thèmes qu'on vous propose dans ce Basket Time. OKC est-elle la franchise la plus excitante de la saison ? Et puis un deuxième débat à l'attention qui va déchaîner les passions et déchirer les fans franco-français, les admirateurs de Victor Wembanyama. Qui mérite le plus le titre de rookie de l'année ? Victor ou Chet Holmgren, l'intérieur de OKC. Est-ce que vous avez préparé vos arguments, messieurs ?
Oui.
On les a.
Est-ce que vous allez défendre Victor un peu ? Parce que la partie n'est pas gagnée d'avance. Hein.
Si, c'est cadeau.
C'est cadeau ?
Ah, bien sûr.
Pas pour moi.
Steve, il boude, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé de Dallas dans cette émission, dans ce podcast. Non, c'est pas, je sais pas, j'ai l'impression que le thème là t'a contrarié cette semaine.
Non, pas du tout. OKC, c'est très bien.
OKC, c'est très bien, parfait. Dans la partie historique, nous allons dépoussiérer l'album des Seattle Supersonics, puisque évidemment, c'est l'ancêtre de OKC. Avant, c'était dans le nord-ouest des États-Unis, là où il se fait très froid, avant le déménagement au sud. Et puis, bien sûr, le quiz vous départagera sur vos connaissances basket. Ce sera un quiz qui sera consacré à la fois à OKC et aux Sonics de Seattle.
Mais en basket.
Pas uniquement.
Pas forcément.
Un quiz qui pourrait vous surprendre, éventuellement.
Est-ce que tu connais bien Oklahoma ?
Oh, c'est bien plus vicieux que ça, mon cher Alex. Donc, c'est Basket Time spécial OKC. Et c'est parti pour la sensation de l'Ouest.
Hein. Comes right back. Nice shot. Floats it right over the outstretched arm of Lively in the Thunder. Here's Dort. He will let it fly straight away. And Lou Dort's got himself a three. And Jalen Williams comes right back. And J-Dub drills one from deep. Nice kick out pass. Giddy wide open for the three as he splashes it home.
That's pretty amazing.
And what was an absolutely loaded trap. Cason Wallace, all that pressure once again on SGA. Bertans, he's not missing from the outside. Might have found his stroke at the free throw line, and he's got three more. Anticipated by Bertans, up ahead, it's Dort. He'll put it down. SGA slithers inside. How about that?
Alors, OKC, est-ce la franchise la plus excitante de la saison selon vous ? C'est une franchise qui a mangé son pain noir pendant plusieurs années. Elle a écumé les bas-fonds de la NBA et notamment de la Conférence Ouest avec des jeunes joueurs en développement. Jeunes joueurs, alors certes prometteurs, mais c'était difficile d'imaginer un avenir à cette équipe qui longtemps a vraiment été un faire-valoir de la NBA. Et là, qui se retrouve deuxième à l'Ouest avec 13 victoires et 6 défaites, juste derrière Minnesota et avec pour l'instant un meilleur bilan que les champions en titre Denver, derrière un Shai Gilgeous-Alexander impressionnant et dont vous allez me parler. Quels sont les autres talents du Thunder, Alex ?
Ah bah, tu l'as dit, Shai Gilgeous-Alexander, c'est en mode top 5 de la Ligue, hein, on en parlait en off avant l'émission, près de 30 points de moyenne, à 53% au tir, 5,7 rebonds, plus de 6 passes, 2,4 interceptions, il est le meilleur de la Ligue, impressionnant offensivement et impressionnant défensivement, un des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue, et puis il a été rejoint par un autre two-way très impressionnant, là, en la personne de Chet Holmgren, qui est déjà deuxième meilleur marqueur de l'équipe avec 17,6 points, 8 rebonds, 2,2 contre, il est cinquième de la Ligue en compte, 53% au tir, près de 40% à 3 points et près de 90% au lancer franc après une vingtaine de matchs, c'est quand même impressionnant. Derrière, on a Janel Williams qui confirme en deuxième année avec 17,6 points et également à plus de 50% au tir. Isaiah Joe qui fait sa meilleure saison avec plus de 10 points et 46% à 3 points. Un Lugans Dort qui est à 40% à 3 points et très bon défenseur extérieur également. Jason Wallace, un petit rookie qui fait du bien avec plus de 20 minutes de jeu, 7,5 points et plus de 50% à 3 points quand même. Et puis on rajoutera aussi, même s'il a des petits problèmes personnels en ce moment, l'ami Josh Giddey qui est un peu en baisse parce qu'il y a plus d'armes dans l'équipe, il met moins de points, moins de rebonds, moins de passes que l'an dernier avec 5 minutes en moins, mais c'est toujours un apport aussi. Et puis ce qui est impressionnant, c'est que tous ceux que je viens de vous citer, le plus vieux, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a que 25 ans.
Voilà, donc ça, ce que je disais, ils ont mangé leur pain noir, ils récoltent les fruits de leur patience, on y est, mais c'est peut-être peut-être arriver plus tôt que prévu. Juste déjà d'entrée de jeu, un mini débat sur Shea. Tu disais top 5, l'air de dire que c'est même pas négociable. Bon, c'est une ligue quand même. Ouais, mais alors c'est une ligue quand même qui fourmille de talent. Hein. C'est-à-dire que dans les top 5, quand on enlève une place pour Jokic, une place pour Embiid, une place pour Doncic, il n'y en a plus que deux. Hein.
Pourquoi tu enlèves une place pour Doncic déjà?
Bah, parce qu'il est quand même monumental.
C'est quoi ses stats, Doncic? Et c'est quoi son classement actuellement avec son équipe?
Doncic, en fait, tu ne le mets pas top 5 d'office, toi?
Non, mais j'ai pas dit qu'il serait pas top 5, mais j'ai dit pourquoi Shea n'y serait pas? C'est ça la question.
Non, non, mais je dis juste que pour qu'il y soit, il y a quand même 2-3 Lascars à bouger. Hein, parce que j'ai pas parlé de Yanis, j'ai pas parlé de Tatum.
J'ai pas parlé de Devin Booker.
Devin Booker, Steph Curry. Même il y a des gars qui font des trucs incroyables comme Haliburton. Bon, bref, toi, t'es top 5, c'est pas négociable.
C'est pas négociable, bien
après,
sûr. Que
chacun
non.
son avis, mais il fait tout sauvetage dans le débat quoi, pour un top 5 de la Ligue.
Stephen,
oui.
C'est top 5?
Moi, c'est derrière Lucas, ce sera toujours derrière Lucas, tu le sais, ça, Pierrot.
Oui, mais quand même, il serait derrière, il pourrait être quatrième, tu vois ce que je veux dire.
Oui, il pourrait être quatrième. Après, Shea était dans le meilleur 5 de la Ligue la saison dernière. Donc, alors, il y a respect des postes.
Il y a des postes, après.
Oui, il y a des postes, mais oui, c'est très fort. Et puis, bon, les résultats plaident pour lui, parce qu'être très fort, faire des stats, ça existe hein, beaucoup en NBA, mais être très fort, faire des stats et faire gagner son équipe, là, ça réduit un petit peu la voilure et le nombre de joueurs.
Oui, et bon, des deux côtés. C'est qu'il est capable, c'est le meilleur intercepteur de la ligue en plus, c'est-à-dire qu'il est concerné par la défense.
Oui, mais à l'image de Casey, qui est quatrième, je crois, en attaque et sixième au rating défensif. Donc c'est une équipe qui joue des deux côtés du terrain, alors qu'aujourd'hui, en NBA, t'as beaucoup d'équipes, et je pense aux Bucks qui mettent beaucoup de points, mais qui défensivement sont pas terribles. Les Mavs, ils mettent beaucoup de points, défensivement, c'est pas terrible.
Ouais, mais quand t'as ton leader qui défend bien, t'as envie de défendre bien aussi. Tu vois ce que je veux dire?
Mais il y a des spécialistes.
De quoi?
Ils ont des spécialistes.
Ils ont des spécialistes en plus, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est quand t'as ton meneur devant qui montre des choses et que t'as Chet derrière qui va compenser toutes les erreurs défensives, bah t'as envie de défendre un peu mieux. Et c'est pour ça que moi, gros coup de chapeau à Shea Gilgeous-Alexander parce qu'il est défendu par le meilleur défenseur d'en face toute la soirée. Et en plus, il va défendre.
Défendre aussi le meilleur en face.
Franchement, si tu mets pas top 5, je sais pas qui tu mets.
Steve disait un quatrième rating offensif, sixième rating défensif. Il y a que Boston qui est dans le top 10 dans les deux, comme OKC. C'est fort des deux côtés du terrain.
Alors, est-ce que c'est l'équipe la plus excitante de la saison pour vous, Fred? J'ai l'impression que toi, t'aimes bien, toi. Hein,
moi, j'adore, bien sûr. Déjà, Shea Gilgeous-Alexander, j'adore. Josh Giddey. Alors oui, effectivement, il y a des problèmes plus que personnels. Des
plus
problèmes
que personnel.
avec la
j'ai fait un petit euphémisme, Fred.
Donc, j'ai oublié de demander la carte d'identité de.
J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais ça peut être très grave. Donc, mais c'est quand même un joueur incroyable qui est capable de passer le ballon, de prendre des rebonds, qui fait plein de choses et qui est hyper intéressant. Moi, j'aime bien Lou Dort, évidemment, parce que c'est un spécialiste défensif. Jalen Williams qui confirme dans sa deuxième saison. On sait que confirmer, c'est jamais simple. Il avait fait une très bonne saison. Là, il est encore meilleur. J'ai envie de dire que tout le monde est très bon. Isaiah Joe est très bon. Ils ont un pourcentage de réussite à 3 points collectif de plus de 40%.
Numéro 1 de la Ligue 1, largement.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le ballon circule bien, ça veut dire que le ballon arrive dans de bonnes conditions et que les mecs ont confiance. Alors moi, le seul bémol, c'est qu'il y a Micic dans cette équipe et qu'il ne joue pas beaucoup. Et ça aussi, c'est un euphémisme. Et ça me déçoit un petit peu. Mais sinon, Marc Desnoyers, il a réussi à faire une vraie équipe avec ses jeunes loups. Et franchement, c'est hyper plaisant à voir jouer.
Intéressant, Alex. Stat, quand je notais, quand on préparait l'émission, ce que tu disais, numéro 1 à 3 points en pourcentage. Et ils en tirent moins que l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils en tirent moins, mais ils sont plus efficaces sur les shoots. Ils sélectionnent mieux leurs tirs aussi. Ils ont la deuxième marge de victoire aussi. J'ai noté ça, c'était intéressant, de la Ligue derrière Boston. Ouais, c'est une des équipes les plus excitantes, clairement.
Et
quoi.
Puis des jeunes en plus, on aime.
Oui, et puis une équipe jeune, mais qui gagne à l'extérieur. C'est la meilleure équipe à l'extérieur, je crois. Cette victoire de défaite, ça veut dire que dans des salles peut-être un petit peu hostiles,
ils prennent la pression,
même si t'as 24-25 ans, tu gères bien les money time, tu gères bien la pression. Alors après, s'il faut répondre à ta question, Pierrot, sur l'équipe la plus excitante de la ligue, pour moi, c'est Orlando. C'est pas OKC. Mais puisqu'on fait une émission spéciale OKC, on va pas quand même détruire cette équipe-là parce qu'elle a quand même quelques qualités. Il y a un vrai défaut dans cette équipe, c'est qu'il y a trop de Williams. Mec, ça me chamboule. Entre Kenrick Williams, Jalen Williams.
Et il y a Wallace aussi, en plus.
Quand tu la regardes jouer, t'es perdu. Alors quand tu les commandes comme Fred, c'est un peu relou. Il y a trop de. Il y a un petit peu trop de Williams.
Jalen Williams, c'est quand même le meilleur.
Oui, clairement. Mais c'est une équipe qui. La reconstruction a démarré avec l'arrivée de Marc Desnoyers, puisque quand Marc Desnoyers arrive, c'est 22 victoires. La saison il y a deux ans, c'est 24. L'année dernière, c'est 40. Ils font play-in, ils sont 10e. Ils perdent contre les Wolves, ils perdent contre les Pels. Et donc ça y est, c'est fin de la reconstruction. Et là, on est clairement une équipe qui veut un premier run en play-off. Et ils doivent y aller. Peu importe qu'ils aient 24 ans de moyenne d'âge, ils doivent y aller, puisque c'est la quatrième saison de la reconstruction, ils doivent aller en play-off. Et c'est une équipe qui pourrait, à tout moment, chambouler la NBA, Pierrot. Parce que c'est l'équipe qui a, et Sam Presti, quand il ouvre son armoire dans son bureau, il peut faire un blockbuster trade. Il a tout en magasin pour chambouler cette équipe-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent...
Tu penses que ça sera nécessaire ?
Je sais pas.
Non, mais la question peut se poser parce qu'effectivement, tu as de quoi faire un...
C'est-à-dire d'avoir un deuxième énorme joueur au côté de Shea.
Ils peuvent parce qu'ils ont énormément de choix de draft. De 2024 à 2030, je crois qu'ils ont un premier tour à chaque fois. Ils ont des swap draft avec d'autres équipes. Donc s'ils veulent, s'il y a un mec qui se met sur le marché... Joel Embiid.
J'allais dire Embiid.
Ils peuvent à tout moment offrir un package que personne ne peut concurrencer.
Mais alors là, quel est le poste sur lequel ce serait intéressant, meneur, éventuellement?
Non, parce que t'as Shai, donc qui joue meneur. Mais peut-être,
moi je le prendrais en 5, Embiid, et chez Holmgren, je le dégagerais.
Ouais, pourquoi pas.
Il trouverait une raquette, mec.
Holmgren n'est pas forcément un pur 5.
Non, même s'il a corrigé beaucoup de carences, parce que l'année dernière, la carence était sur le poste de pivot, puisque c'était ce bon Jalen Williams.
Parce qu'il a la taille, parce qu'il a la dissuasion, etc. Mais concrètement, c'est un vrai 4.
Oui, bien sûr, c'est un vrai 4. Mais dans la dissuasion défensive, dans le fait qu'il mette un peu plus de points près du cercle, c'est la vraie marge de progression de cette équipe-là. Mais Sam Presti, si à un moment donné, il peut faire bouger la ligue, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut.
Mais alors, t'imagines quoi ? Qu'est-ce qui est envisageable ? Cette équipe-là ne peut pas juste mûrir et devenir la meilleure de la NBA ?
Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça a été leur choix de construire ce jeune gamin et de les laisser progresser.
Est-ce que s'ils n'avancent pas trop vite à un moment, ils ne seront pas à même de tout casser ? Ça se fait quand même beaucoup en NBA. La question se pose vraiment. Parce que moi, je pense que cette équipe a un potentiel, mais tu fais venir un Joel Embiid.
Ah, ça change la donne.
Là, t'es un prétendant au titre, quoi.
Mais t'es déjà, pour moi, dans les contenders. Soit les stats qu'on dit que là, quand t'es top 10 rating offensif, top 10 rating défensif.
Demande à voir en fin de saison, quoi.
Voilà, il faut le prouver, mais t'es déjà dans les contenders. Sam Presti a prouvé, je citais Kazan Wallace, qui est encore un super pick à la draft, un super choix. Il a prouvé qu'il savait faire des bons choix. Tu peux aussi te baser sur le corps que t'as, l'effectif que t'as maintenant, et essayer de le développer. Hein. 23 ans de moyenne d'âge. C'est la deuxième plus bas après les Detroit Pistons.
Après les Spurs, non ?
C'est Pistons, j'ai vérifié
Pistons.
Ce matin.
Okay, très bien.
Les Spurs sont juste en troisième. Mais ils sont même plus jeunes que les Spurs.
Ouais, ouais, mais
il y a une base pour travailler sur l'avenir, un petit peu plus.
J'ai l'impression que c'est un peu plus solide.
Mais peut-être que Sam Presti aussi.
Qu'est-ce qu'il dit si Embiid est disponible ?
Oui.
Sam Presti. Je me jette des.
Sam Presti. C'est une blague.
C'est bien. Normalement, c'est Steve qui fait cette blague.
Il est là. Mais peut-être qu'ils attendent aussi, et je sais pas, là, je suis pas dans la tête de Sam Presti, peut-être qu'ils attendent que la conférence Ouest se délègue. Laisse un petit peu des superstars. Tu vois, LeBron James va peut-être bientôt arrêter. Kevin Durant est aussi un petit peu sur la fin. Donc peut-être qu'ils attendent que la conférence Ouest devienne un peu plus faible, entre guillemets, que les superstars de la conférence Ouest, eh ben, comme Steph Curry aussi notamment, eh ben, rétrogradent un petit peu pour s'activer au niveau du roster et prendre et avoir la mainmise sur cette conférence.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ?
Qu'est-ce que ça change ?
Les autres seront moins attractifs.
Mais si tu bouleverses tout maintenant, alors que tu as encore Denver, que tu as encore Phoenix, qui a une super team, que tu as encore les Warriors qui sont là, et que tu bouleverses tout, ça me prestige, je pas. Aussi, hein.
Non, mais s'il le fait maintenant, ce qu'il y a autour, c'est compliqué, t'es pas sûr de gagner.
Oui.
Alors que t'as quand même plus de certitude si justement les grosses stars vieillissantes arrêtent.
Ouais, mais Denver, ça va quand même dominer encore un moment, a priori. Ils sont pas.
Faudra voir, parce que c'est pas une super team, les Nuggets. Hein.
Mais ils sont pas vieux.
Ils sont pas vieux, oui. Jamal Murray, Jokic, c'est pas vieux, mais c'est pas une équipe de mutants non plus. C'est Jokic qui fait que cette équipe est une équipe de mutants.
Alors vous l'imaginez où en fin de saison cette équipe de
Moi, je l'imagine à la 5e place de la conférence Ouest.
D'accord, derrière Denver.
Derrière Denver, derrière Phoenix, derrière.
Dallas.
Non, je pense que Dallas va être derrière. Derrière Denver, derrière Phoenix, derrière.
Minnesota,
bien sûr, qui est numéro 1. Derrière peut-être les Lakers.
Ah ouais.
Voilà.
Et les Golden State Warriors, non ?
Bah, les Warriors, ça va être 6-7, ça va se battre.
Ils seront play-in pour moi, les Warriors. Mais...
Ok. Et OKC, okay, si, puisque c'est le sujet du jour.
Top 4. On ne s'est pas concerté, pourtant, mais on est plutôt d'accord.
Après, attention, parce que depuis le début de saison, ils ont perdu contre Denver, ils ont perdu contre Philly, ils ont perdu contre les Wolves. Trois équipes qui ont un petit peu au-dessus d'eux en termes de résultats.
Ils ont le 18e strength of schedule. Donc, là, tu vois, les adversaires qu'ils ont affrontés, ils sont plutôt vers le bas. Donc, il y a.
Easy schedule. Strength of schedule.
Ils vont perdre deux places. Pas grave, ils sont deuxième pour l'instant.
Non, mais moi, je les vois top 4. Je te mets encore Minnesota, Denver, Phoenix sans doute devant, ils seront dans le top 4.
Ils sont jeunes, ils vont continuer à progresser aussi. C'est l'avantage.
Et alors, en playoff, ça manque d'expérience ?
Ah ben pour moi, c'est le principal problème. Ça manque d'expérience, évidemment. Donc,
Shai a joué des matchs de playoff avec les Clippers, non ?
Ouais, mais c'était pas dans le même registre.
Oui,
tu vois, il avait pas la même importance dans l'équipe.
Et d'ailleurs, à l'époque, on l'imaginait pas.
Il était à 18-19 points, je crois, aux Clippers. Il le trade pour Paul George.
Être franchise player, c'était pas trop sa destinée à cette époque-là, non ?
Je sais pas, parce qu'à son âge, il tournait quand même avec des gros stats.
C'était bon,
il
venait
juste de commencer. Il est très jeune, effectivement.
Aussi impressionnant, tu t'y attendais peut-être pas, mais il y avait du potentiel quand même énorme.
Donc, moi, je suis inquiet sur les
playoffs.
Toute la liste que je vous ai citée tout à l'heure, qui sont la principales rotations d'OKC, le plus vieux c'est Shea, il a 25 ans. En effet, tu vas manquer d'expérience, c'est évident. Et oui, pour les joutes face au vieux Briscard,
et puis,
ça compte.
Et puis tu vas affronter des équipes qui ont 6, 7, 8, 9, 10 campagnes de playoffs, qui ont peut-être fait une saison régulière moyennasse, mais qui pour les playoffs, avec cette expérience, tu peux penser aux Lakers, les LeBron, Anthony Davis, t'as pas envie de le jouer au premier tour.
Ah, ils activent le bouton, ils activent le bouton playoff.
C'est un peu la mode aussi, de commencer diesel et de finir fort, parce que justement, ils savent que la saison va être longue, ils ont plus d'expérience aussi qu'OKC par rapport à ça. Et gérer une saison aussi.
Donc un tour et puis ça suffira, c'est ça?
J'espère passer un premier tour.
Et voilà, ça suffit.
Très bien, c'est un spécial Oklahoma City Thunder cette semaine dans Basket Time sur RMC. Tout de suite le duel Wembanyama-Holmgren.
Who do you got for rookie of the year?
Who would you take right now? The one year between Wembanyama or Chet?
NBA rookie of the year is
Wembanyama and Holmgren. It comes off to Dort. Now he steps behind the three-point line and drains it. Boy, Wembanyama showing all of the skill that he has and all the skill that made him the top overall pick. Holmgren from the outside, and they exchange threes. And how about OKC? Chet Holmgren going vertical.
Alley-oop.
Wembanyama and the foul.
Wembanyama, three-pointer, knocks it down.
Alors, donc, qui sera rookie de l'année? C'est notre débat, bien sûr, un peu anticipé, hein, parce qu'on verra au mois de juin. Mais en tout cas, ces deux-là sont les deux grands favoris. Wembanyama avec les Spurs, Chet Holmgren avec OKC. L'un et l'autre sont assez impressionnants individuellement depuis le début de saison, Alex.
Tout à fait. Ben, on vous répète, tout à l'heure, on vous a déjà donné la ligne de Chet Holmgren, mais on va la répéter. 17,6 points, deuxième meilleur marqueur d'OKC avec Jalen Williams. 8 rebonds, 2,2 comptes, cinquième de la ligue sur les comptes, 53% au tir, 39,5 à 3 points, 86,5 au lancer, il est presque à 50-40, 90 après un quart de la saison. Puis surtout, son équipe est deuxième à l'ouest, hein, avec un bilan de 13-6, comme on disait. De l'autre côté, Victor, 19,3 points, 9,7 rebonds, 2,6 passes, 2,7 contre, il est troisième au contre, 43% au tir, 27% à 3 points, et puis le dernier bilan à l'ouest, 3-16, plus d'un mois que les Spurs n'ont pas gagné un match, donc ça compte aussi. Et on a eu un premier début de réponse, puisque c'est tombé hier, le rookie du mois de novembre, octobre, non, enfin, fin octobre et puis le mois de novembre, à la conférence Ouest, c'est Chet Holmgren. C'était pas Victor Wembanyama.
C'est du vol.
Bien sûr,
c'est du vol, Stephen.
Bah, tous les chiffres sont en faveur de Victor Wembanyama. Les points, les rebonds, les passes.
Voilà.
Alors tu peux juger la réussite au tir. Très bien.
Les ballons perdus.
Par contre, si tu juges uniquement sur le résultat de l'équipe, c'est une erreur. C'est une erreur. Tu ne peux pas juger les performances individuelles des rookies par rapport aux résultats collectifs.
Oui, puisque la draft est faite pour que la meilleure aille dans les pires teams.
Victor Wembanyama arrive dans une équipe pourrie. Chet Holmgren, il était là l'année dernière et il arrive à OKC qui a gagné 40 matchs la saison dernière. Donc forcément, OKC va avoir des meilleurs résultats que les Spurs.
Par contre, il arrive dans une équipe à 40 matchs l'an dernier et il est deuxième marqueur et il devient un joueur essentiel
d'accord,
de cette équipe
d'accord,
en moins de 20 matchs.
Imagine Victor Wembanyama drafté par OKC.
Tout à fait. C'est pas la réalité, ouais, mais avec des si, je te refais toute
C'est pas juste. C'est pas juste,
mais dans ce cas-là, c'est pas juste quand Luka Doncic n'est pas MVP alors qu'il marche sur tout le monde. C'est juste que les résultats collectifs sont hyper importants aussi. Et effectivement, l'année dernière.
Tu peux pas juger MVP et un rookie, Fred. Rookie, tu juges la performance individuelle du garçon dans sa première année.
Un rookie, en théorie, qu'est-ce qui se passe? Il va dans une mauvaise équipe. D'accord?
Voilà.
Sauf que Chet Holmgren, il est aussi en théorie dans une mauvaise équipe.
Oui, mais lui, c'est sa deuxième saison, même s'il est rookie.
C'est là qu'il triche un petit peu. Alors, pour moi, il triche sur trois trucs. Chet Holmgren. La première, c'est pas sa vraie première année. C'est sa deuxième année.
Oui, mais ça marche comme ça.
Il a été blessé, mais il a eu le temps d'observer et de travailler. Exactement.
Avec
ouais. Ensuite, il est bien mieux entouré. Ça, personne peut le nier. Quand t'as Shea à côté de toi, quand t'as Josh Giddey, forcément, c'est beaucoup plus simple aussi. Et ensuite, il a 21 ans alors que Wemby n'a que 19.
Sauf que
quand tu regardes les stats et quand tu regardes l'apport qu'il a, parce que finalement, il arrive dans une équipe qui était à 48% de victoire. Ils sont à 68. Ben donc c'est lui, entre guillemets lui, mais pas que bien évidemment, mais il contribue à ses 20% de plus, ouais. D'accord. Ses pourcentages sont meilleurs, il perd moins de ballons, c'est facile à comparer, il joue le même nombre de minutes les deux, 30 minutes chacun, donc c'est facile à comparer. Pour moi, un joueur qui fait ce qu'il fait comme stat,
mais il a moins de ballons dans les mains, vu que Shea monopolise les ballons.
Mais c'est pas sa faute non plus. Si ça se trouve, s'il avait plus le ballon,
tu parles des turnovers, forcément que Victor en a plus, vu qu'il a plus le ballon dans les mains,
Je suis d'accord, sauf que c'est un point négatif quand même. Quand tu perds 3,5 ballons par match, c'est beaucoup quand même. Parce qu'un Maxi, il a le ballon dans les mains tout le temps, il a un ballon perdu, un ballon et demi. Tu vois ce que je veux dire? Il a beaucoup le ballon dans les mains, il a beaucoup de responsabilités aussi. Donc pour moi, à l'instant T, si on devait continuer la saison, et Chet Holmgren, malheureusement, et vous savez que l'amour que je porte à Victor Wembanyama, mais je pense que.
Si tu échanges les situations, Steve, si tu mets Victor à la place de Chet, avec la ligne de stade de Chet, à OKC, et que tu mets Chet à San Antonio, avec la ligne de stade de Victor, t'as le moindre doute que c'est Victor ?
Comment ça ? J'ai pas compris.
Si un échange trop complexe pour moi.
J'ai compris, moi, la question.
Ouais. Victor est à la place de Chet, avec la même ligne de stats à OKC.
Et il fait la même ligne de stats que qui ?
Que Chet, aujourd'hui.
17 points.
Voilà. Et il fait ce que fait Chet avec OKC.
Ouais.
Et inverse. Chet, lui, il est à San Antonio et il fait ce que fait Victor.
Chet Holmgren mérite d'être rookie du mois.
Ça aurait été Chet Holmgren le rookie.
Oui. Parce que moi, quand je regarde.
Il sait que j'ai touché un point. Si Victor faisait ce que faisait Chet,
Victor Wembanyama, 8 double-double, Holmgren, 7 double-double. Record à 38 points pour Wembanyama, record à 36 points pour Chet Holmgren. Record à 15 rebonds pour Wembanyama, record à 13 rebonds pour Holmgren. 8 comptes pour Wembanyama, 7 comptes pour Holmgren. 7 passes décisives pour Wembanyama, 6 passes décisives pour Holmgren. Il est devant partout.
Concrètement, c'est
pour les
devant partout. C'est simple, il est 10% meilleur.
Non, c'est pas ça. Non, mais tu peux pas arguer le fait
que. 6 interceptions dans le corps de Victor.
Non, là, t'es injuste parce que tu peux pas arguer le fait qu'il a plus le ballon dans les mains, Wembanyama, que de ce pays qui a plus de ballon et qui marque plus de points aussi.
Ça marche que dans un sens.
C'est pas mon problème, il joue le même nombre de minutes, ça marche que dans un sens.
Il a quasi merdé. Il shoot beaucoup plus.
C'est le point mauvaise foi qui a été décidé par
Fred. Alors, pour les points, je te l'accorde. Mais comment t'expliques les rebonds, les contres, les passes et les interceptions alors ?
Et là, c'est pas des ballons qu'on lui a donnés, c'est lui qui allait les chercher, les rebonds quand même.
D'accord, sauf que vous pensez que c'est abyssal la différence entre les deux ? Concrètement,
c'est meilleur.
C'est meilleur.
Oui, sauf qu'il est accompagné, t'as un Josh Giddey qui peut prendre des rebonds par exemple. Qui est capable de bien jouer au basket à San Antonio ?
Jérémy Sowan prend des rebonds pour un meneur.
Oui, c'est un bon meneur d'ailleurs.
Je dis qu'il prend des rebonds pour un meneur.
Si tu notes les rebonds et tout, t'es obligé, mais tu notes les tirs aussi.
Oui, ben c'est ce que je dis.
Il y a quand même une vraie différence d'adresse.
Le nombre de shoots pris.
Mais qui vous dit que Victor Wembanyama n'aurait pas une meilleure adresse avec un bon meneur de jeu ? S'il joue avec Shai, peut-être qu'il sera 55%.
C'est pour ça que je te dis que si t'inversais, t'aurais aucun doute.
On fait pas de la science-fiction, Stephen. On regarde les chiffres. Les chiffres sont quasiment identiques, ou à peu de choses près, avec un meilleur pourcentage.
Il y a deux points d'écart, Fred, de moyenne.
Franchement, c'est pas fou quand même.
Sur le mois de novembre, il a 20 pions, Victor. Shatton Graham, il a 17-8.
Il y a 5 shoots de plus pour Wembanyama en moyenne. 5 shoots de plus. Heureusement qu'il met plus de points. C'est évident.
Et 2 points de plus.
Points pour 5 shoots. C'est rentable.
En plus, Steve, il nous oblige à faire. Tu nous fais passer comme si on était. Victor, c'est fait. Victor est exceptionnel. Il n'y a pas de souci.
Mais fois novembre, Victor, c'est 3 comptes de moyenne. Il faut souligner.
Il faut souligner ce que fait Chet, quoi.
Non, c'est 2.2. Déjà, c'est 2.2.
Sur novembre ?
On en est au point où il va nous dire alors
plus,
du 16 novembre au 22 des comptes de la main gauche.
Novembre, j'ai pris les stats de novembre, non. Je vais pas prendre les stats de
le rookie. Le rookie, c'est fin octobre, début novembre. C'est pas que novembre.
Il y en a un qui met des points, l'autre qui est sur le banc. Donc si tu vas par là aussi.
Attends, tu vas pas me comparer.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu choisis un moment précis pour. Non, je te parle depuis le début de saison et on parle du rookie.
Il faut comparer un joueur face à un autre joueur. Faut pas parler des résultats collectifs.
Et le vote pour le rookie du mois qui représente pas que novembre, parce que c'est le seul rookie du mois qui représente aussi le début d'octobre.
Début de saison.
Il prouve ce que les mecs qui vont voter peuvent aussi voter.
Mais évidemment.
Alors, nous allons faire un exercice.
Les journalistes qui votent les rookies du mois, les journalistes, ils votent pas.
Un petit exercice pratique. D'accord, pour vous départager, parce que là, j'ai l'impression que vous serez jamais d'accord.
Donc, tout le temps d'accord avec Stephen.
Voici l'exercice. Vous êtes GM des Detroit Pistons, ok ?
Ouais.
Vous avez le premier tour de draft.
Oui.
Prenez qui ?
Premier tour de draft.
Fred, tu prends qui ?
Victor. Là.
Attends, on parle de
potentiel. Ah, non. Alex prend Victor.
Non, mais c'est débile. Tu parles de potentiel.
Calmez-vous.
Je t'ai pas dit qu'il était moins fort. Je te dis ce qu'il fait depuis le début de saison.
Moi, Pierre, je réponds à ça.
C'est pas possible. Envoyez-moi au combat. Au moins, les mecs n'ont pas de mauvaise foi au combat.
Non, t'es injuste. Fred. Pourquoi t'es injuste ? Il y en a un qui a 21 ans, l'autre qui a 19.
Non, parle-moi comme un GM de NBA, là. Comme un débatteur de RMC, là.
Je te dis, il y en a un qui a 21 ans, l'autre qui a 19 ans. Donc évidemment, je prends Wemby, parce que les stats qu'il fait, c'est monstrueux. Ça n'a aucun rapport avec le rookie de l'année.
Vraiment, on s'amuse ici.
Si on veut vraiment aller plus loin dans la connerie, il y en a un qui est vraiment plus beau que l'autre. Hein. Je ne vais pas vous mentir.
et si je fais...
Alors là,
je prends Wemby.
Il y en a un...
Stephen Brown, GM des Detroit Pistons.
Mais tout le monde prend
Wemby. Donnez-moi un petit argument quand même.
Je prends Victor Wembanyama parce qu'il a 2 ans de moins et parce qu'il va changer le visage de la ligue.
2 ans de moins et plus de potentiel sans doute. Oui.
Alex Orbinette.
Ouais, moi je prends aussi Wemby sans aucun doute. Ils ont raison, il a 2 ans de moins. Rookie de l'année, c'est une autre question.
Ça n'a aucun rapport avec le potentiel. Hein. C'est avec ce que tu fais sur une saison.
Et je pense, les gars, qu'entre les deux, celui qui a l'image la plus forte depuis le début de saison, celui qui a l'image qui a le plus imprimé dans les rétines, c'est le 3 points d'égalisation de Chet contre les Warriors. Pour moi, c'est entre les deux, c'est l'image la plus marquante depuis le début de saison.
Alors, c'est un petit peu dur parce qu'il a fait, il a fait des actions spectaculaires.
Attention, parce
tous
que les highlights de Wembanyama, c'est solide. Hein.
Mais sur l'instant, sur ce qu'on, enfin, tu vois, le truc qui reste dans la rétine, ce 3 points-là d'égalisation. Regarde la tête de Shea quand il le met.
Je pense que la NBA voudra que ça soit Wemby, clairement. Ils ont tout mis en avant pour que ça soit lui, et ça sera lui.
Petite question, mais si Victor Wembanyama se balade dans les rues de Oklahoma, est-ce qu'il est plus reconnu que Chet Holmgren dans la rue de San Antonio?
Bonne question.
Il fait 10 cm de plus,
oui.
Ce mec.
Oui, largement.
Le problème, c'est qu'il peut même être plus reconnu à Oklahoma City.
Oui,
même si c'était ça la question.
Sans dire que l'autre est à San Antonio.
Ah oui.
Tu mets les deux à Oklahoma City, ça se trouve, c'est Victor qui est le plus reconnu. Bref, c'est un débat qui sera tranché.
T'es content de ce débat.
Par la Ligue en fin de saison, bah, c'est un super débat, ça, non?
Oui.
Parce qu'il y a vraiment.
T'as pas donné ton avis, toi, par contre.
C'est vrai. Bon, là, je suis incapable de vous donner mon avis. D'avoir un avis.
Si t'es GM.
Déjà, je regarde plus.
Si t'es GM de.
Si t'es GM de Pistons, c'est pour qui?
Je prends Victor.
Mais tout le monde prend Victor, c'est évident.
Non, mais déjà, je regarde quand même plus les Spurs que OKC, même si c'est sympa au Kessi, bien entendu.
C'est très sympa au Kessi, fais attention.
Et puis c'est difficile de déterminer ça quand même, faut avoir un peu de connaissances techniques que je n'ai pas.
Non, mais sur le potentiel, si, c'est pas très compliqué. C'est Wemby qui est là.
Oui, mais en fait, le rookie, c'est sur les performances, là, voilà, c'est pas ça. Sur le potentiel.
Mais oui, c'est toi qui me poses la question qui on prend si on est GM.
Je sais pas, moi, c'est
sur le potentiel que tu draftes aussi.
De déplacer le débat, parce que là, vous étiez tellement en train de vous écharper, il fallait vous faire redescendre, mais ça n'a pas
rendez-vous, marché. Rendez-vous en décembre.
Rendez-vous.
Fin décembre.
Pourquoi
début janvier, bah pour le rookie du mois en décembre.
Sinon, rendez-vous à la fin de saison.
Il y en a un qui n'a pas raté le match, mais bon.
Allez, tout de suite, on continue sur ce spécial OKC, c'est la partie historique.
It's the second pick in the 2007 NBA draft. The Seattle Supersonics select Kevin Durant.
After 41 years of basketball in Seattle, the Sonics are packing up the trucks and heading to Oklahoma City.
And Payton's going to push it in a hurry. Top of the key, works his way around. Oh,
Payton with the steal and puts it down.
Between the legs to Sean Kemp.
You know what Sean Kemp is all about. He is the fastest power forward in the NBA right now.
Gives to Ray up and in. Oh, Ray Allen has got some mojo. There's Ray. He's open for the tie.
Alors c'est un spécial OKC, le Thunder est une franchise qui existe depuis 2008 en tant que telle, mais dont la création remonte à 1967 à Seattle, les Supersonics champions en 1979 et dont les grands noms sont Nate McMillan, Lenny Wilkens, Gary Payton ou encore Sean Kemp.
Donc ça sera pas dans le quiz.
Peut-être que ça peut revenir.
Ah, tu prends vraiment pour les abrutis, alors on ne viole les réponses à moi.
Alors nous allons revivre trois moments historiques de cette franchise. Et nous allons démarrer par toi Fred. Tu nous parles du Larry Bird allemand. C'est en tout cas comme ça qu'il a été présenté à son arrivée en NBA. Detlef Schrempf.
Ouais, alors si je vous parle d'un Allemand drafté par les Mavs, vous pensez à qui ?
Il y a beaucoup de consonnes dans ce mot. Ouais, dans ce mot hein.
Donc vous pensez à qui si je vous parle d'un Allemand drafté par les Mavs ?
Et évidemment Sean à Dirk.
Exactement. Je ne m'attendais pas à celle-là. Donc non, c'est pas le grand Dirk, c'est Detlef Schrempf. Drafté en 85, 8e position par les Mavs. Alors dans cette draft 85, qui est une très bonne draft quand même, il y a Patrick Ewing, Chris Mullin, il y a Karl Malone qui est 13e. Et donc comme j'ai dit, Detlef Schrempf, il est drafté 8e par les Mavs.
Un best-of à la fin.
Il passe 4 ans aux Huskies de Washington, donc il passe par Dallas, Pacers, mais on veut parler de lui à Seattle. Alors il arrive en 94 à Seattle, il a été élu deux fois 6e homme de la Ligue déjà, quand il était à Indiana, et il va être le 3e larron de cette équipe magnifique de Seattle. Alors pour les vrais gamers, c'est le 3e joueur de NBA Jam.
C'est-à-dire le 3e plus fort ?
Non, en fait, quand on jouait à NBA Jam, il y avait les deux, Gary Payton et Sean Kemp, et le 3e choix possible, c'était...
Oui, NBA Jam, c'était un match de contre 2.
Et donc, pendant son passage, il est 3 fois All-Star en 93, 95 et 97. Premier joueur européen à le faire. Hein. Donc, on l'a dit, il a d'abord été meilleur 6e homme, c'était à Indiana. Ensuite, il a été 3 fois All-Star. Il est finaliste contre Chicago en 96, où il tourne à plus de 16 points, 5 rebonds, 2,5 passes. Il apparaît dans des épisodes d'une série américaine, donc pour dire à quel point il était vraiment très connu et très reconnu aux États-Unis. Et c'est devenu depuis un militant comme Kemp, par exemple, pour le retour de Seattle en NBA. Donc vraiment très actif.
Ce qui peut arriver, hein, puisque Seattle a toujours les droits du nom de la franchise.
Ce qui doit arriver quand on connaît le public de Seattle. Ça mérite une franchise NBA.
Ça va arriver. Alors juste pour dire un peu ce que c'était Schrempf, il a quand même mis 36 points un jour de décembre 92, il a mis 23 points un jour de décembre 92 aussi, et il a fait 14 passes. Donc c'est pour ça qu'il a été comparé à Larry Bird, qui était capable de jouer un peu partout, très physique pour un Européen.
Et alors, est-ce que la comparaison est pertinente d'après toi ?
Avec Larry Bird ?
Ouais.
Bah, c'est un peu comme... je sais pas. Jokic serait le numéro 1 et Sabonis fils serait là. Donc c'est moins fort, mais il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Il y a quelques similitudes. Alors beaucoup moins de capacité au shoot évidemment, mais cette capacité de faire plein de choses. C'est quand même un joueur qui a joué 1136 matchs en NBA, 14 points de moyenne, plus de 6 rebonds, 3,4 passes. Un joueur extraordinaire qui a fait rêver tous les Européens. Un leader, un pionnier. Et vraiment, on aimait cet Allemand.
Alors, peut-être que son souvenir a été un peu estompé par l'avènement ensuite de Dirk Nowitzki.
Ben, forcément.
Parce que maintenant, l'Allemagne et la NBA, c'est incarné par Dirk.
Exactement.
Et que ce nom-là fait quand même partie un peu de l'imaginaire de la NBA des années 90, comme étant un des Européens, même s'il est américano-allemand, enfin,
oui, germano-américain. C'est vrai que nous, Européens, on le considérait comme Allemand. Il a joué avec l'Allemagne de l'Ouest. Les Jeux Olympiques en 88, il a joué avec l'Allemagne réunifiée entre guillemets en 92, donc c'est un vrai Allemand quand même dans l'âme.
Grand joueur,
et je me répète, il a été drafté avant Karl Malone et avant Joe Dumars. Donc pour classer un petit peu le joueur, la hype qu'il avait à la sortie de l'université, et la carrière qu'il a fait a été quand même assez incroyable, et il nous a fait rêver.
Detlef Schrempf, Seattle Supersonics.
Bien prononcé.
Stephen, tu as choisi de nous parler de Robert Swift.
Ouais, alors c'est
trois saisons totalement quelconques en NBA.
C'est pas vraiment pour parler de la carrière basket de Robert Swift, qui était un garçon de 2m16, qui a joué pivot, qui a été drafté en 12e position très haut à sa sortie de high school en 2004 par Seattle. C'est sûr qu'il a pas marqué la NBA par ses exploits sportifs, même s'il a formé une raquette effrayante avec Joan Petro en 2005-2006. Je laisse libre recours à votre imagination. Lui qui va jouer une demi-finale de conférence, puisque Seattle fait une très belle saison à cette époque-là, en 2004-2005, avec Ray Allen. Mais ce qui va marquer la NBA, c'est la vie de Robert Swift après le basket. C'est un garçon qui... arrive directement de high school, qui est drafté en NBA, qui va toucher 11 millions de dollars à 18 ans, qui après 5 saisons NBA, dégoupille, arrête la NBA. En 2013, il ne voulait pas quitter sa maison en dépression, donc il est exfiltré de chez lui. On le retrouve allongé au milieu d'une porcherie entre déjection canine, pistolet, balle de pistolet, canette de bière, poubelle partout par terre. En 2014, il est retrouvé... il est arrêté dans une maison d'un dealer pour possession illégale d'armes à feu et avec de la drogue sur lui. Il était devenu accro à l'héroïne et à la meth. Il fait 28 jours de prison. C'était une descente aux enfers pour un garçon qui était pas prêt, qui en high school était du même niveau que la Marcus Aldridge et que Al Jefferson, qui avait fait le McDonald's Open, qui réunit tous les plus grands joueurs de high school. Et l'histoire est plutôt termine bien, puisqu'il y a eu la rédemption, le sevrage, le retour à la vie normale, puisqu'il partira en Espagne. Il a repris le basket de 2018 à 2021. Il va jouer en 5e division à Gijón en Espagne. Depuis, tout va bien pour lui, mais c'est juste un petit rappel pour dire que un énième exemple que parfois donner des millions de dollars à un garçon de 18 ans quand il n'est pas accompagné, ça peut être destructeur, et Robert Swift en est le parfait exemple.
C'est une belle histoire, gaie et joyeuse que tu nous as
racontée. C'est bien, ça finit bien, mais c'est vrai que pendant un moment
je disais,
c'est
pas podcast, possible.
Je pensais pas qu'on dirait meth et drogue dans ce podcast.
Déjection canine non plus,
plus d'ailleurs que meth.
À toi Alex, nous allons parler, attention là on revient à du très connu, Sean Kemp.
Ouais, c'est un des visages clairement de la franchise dans les années 90, Sean Kemp, un beau bébé de 2m08 qui arrive en NBA en 1989, 17e choix de la draft. Il va faire 8 saisons aux Sonics, 3 à Cleveland, 2 à Portland et 1 à Orlando, mais on les oublie un peu les dernières quand même, c'était plus le Sean Kemp de l'époque. 6 fois All-Star.
Ça a passé par la fac lui aussi.
Non. Alors son histoire à la fac,
du village.
Il y a quelques petites anecdotes déjà bien salées sur le personnage à la fac, parce que c'était un personnage à part quand même. 6 fois All-Star, 2 fois dans la second team All-NBA, plus de 15 000 points en carrière. En 8 ans à Seattle, il est à 16,2 points et 9,6 rebonds de moyenne. Il fait 6 saisons à plus de 10 rebonds. Il mène les Sonics en finale NBA en 96 quand même contre les Bulls de Jordan, les Bulls à 72 victoires. Les Sonics signent 64 victoires avec Kemp et Payton cette année-là. Et il est proche dans les votes d'être élu MVP de la finale. il est à plus de 50% au shoot à 23,3 points et il est à quelques points seulement.
En même temps, il mettait que des dunks, alors c'est logique.
C'est vrai, c'est
il était quand même beaucoup de dunks.
Il aurait pu, il était pas loin d'être avec le seul qui a été élu MVP des finales en ayant perdu la finale, c'est Jerry West en 69, donc il était pas loin de réaliser ce mini exploit, notre ami Sean Kemp.
Le Rain Man,
dunker incroyable comme tu disais Fred, surtout il y a un poster mythique sur Alton Lister des Warriors en 92, allez tous le voir là où il fait ça et où il le pointe du doigt exactement après quand l'autre est au sol. D'ailleurs, c'est marrant, il a
fait Kiss Gatlin, non, le mec qui ramasse, je crois.
Non, c'est Alton Lister.
Ah oui, ouais, il en met un sur Kiss Gatlin aussi.
En play-off, d'ailleurs. D'ailleurs, il est en play-off, ce poster. C'est au premier tour des play-offs 92. Donc, dunker dingue. 4 participations au Dunk Contest. Pas de victoire, par contre. Il participe en 90, 91, 92, 94. Ouais, exactement. C'est en match. En 91, il perd en finale contre Dee Brown. C'est là où il va le plus loin dans le contexte. Mais c'est, comme tu dis, c'est un dunker vraiment de deux matchs. Mais vainqueur de la médaille d'or au championnat du monde 94, également avec Team USA. Ce qui est marrant, j'étais étonné quand même en regardant les stats. Sa meilleure saison statistique en points, c'est la première à Cleveland. C'est même pas à Seattle. C'est à Cleveland qu'il passe les 20 points de moyenne pour la seule fois de sa carrière. Ce qu'on s'attendait pas. On s'attendait quand même à ce que soit Seattle. Et puis c'est un personnage quand même. Steve en disait un peu déjà au début. Ça va vous plaire. 7 enfants de 6 femmes différentes. Déjà. Voilà. Mmh. Vous savez pas trop choisir.
J'ai l'impression qu'il oubliait mettre le capuchon.
Des arrestations en pagaille, cocaïne, marijuana, possession de flingue. Encore en 2023, il a été arrêté pour une fusillade au volant. Enfin, il était impliqué dans une histoire de fusillade au volant. Steve, tu disais, il n'a pas été à la fac. Enfin, il est passé par Kentucky. Oui, mais... Il ne va pas à la fac au début parce qu'il rate son... Il ne fait même pas le minimum au SAT, qui est l'équivalent du bac américain.
Il n'a pas réussi à écrire.
Il
ne
fait même pas 700.
Nom,
voilà. Et la blague aux États-Unis, c'est que si tu sais écrire ton nom, prénom, tu as 1000 points. Il n'a pas eu 700.
Kent, il a écrit CAMP.
Voilà, donc c'est quand même compliqué. Ensuite, il arrive à Kentucky et il ne va pas jouer à Kentucky. Pourquoi ? Tu as l'histoire ?
Exclu direct, non ?
Il revend 2 bracelets en or qui ont été volés à Sutton, qui est le fils du coach. Il vole des bracelets en or au fils du coach et il va les revendre dans un pawn shop à côté.
Mais c'est quand même un génie.
Donc c'est, voilà, on est quand même sur, voilà, ça confine au génie.
Après, très mauvais entourage, parce qu'il avait 3 potes qui l'ont tiré vers le bas. C'est Jack Daniels, William Peel et Hennessy. 3 potes qui l'ont emmené vers le bas.
Ça a vraiment descendu. Et il a fini, il a possédé des bars, des restaurants à Seattle. Tu vois, on en revient au bar où il a été, comme tu disais tout à l'heure, un des gros militants pour le retour de Seattle avec une franchise
avec
NBA.
Aussi, hein, qu'on a vu avec le t-shirt.
Et il a aussi ouvert, la petite dernière cerise sur le gâteau, un dispensaire de cannabis à Seattle, lequel était présent à l'inauguration. Son grand partenaire de l'époque, Gary Payton.
C'est légal. Voilà,
et était présent à l'inauguration, Gary Payton, qui en a profité pour lancer une marque de cookies au cannabis. Donc ils sont réunis après avoir été réunis sur les parquets.
Comment
c'est le cannabis,
pas après ce que
c'est
tu
le cannabis qui les a réunis, le duo Kemp Payton.
Physiquement, une bestiasse incroyable.
Un beau bébé.
Tonique, fort, athlétique.
Je me rappelle Thomas arrière sur Dennis Rodman. Ouais. Après, il lui atterrit dessus comme ça. Il a ses fesses sur la tête de Dennis Rodman sur les finales NBA.
Alors justement, cette finale 96 qui est quand même un moment ultime, un moment très fort de la franchise, même s'ils sont champions, on l'a dit, dans les années 70. C'est le duel Jordan Payton. Payton réputé pour être le trash talker numéro 1 pratiquement de cette époque.
Là, tu tombes contre le maître.
Mais
réputé pour être bon défenseur.
Qui a fait l'erreur d'aller provoquer Jordan.
Mais tout le monde le sait. Enfin, chaque fois qu'on voit un podcast sur les Ricains, il dit ouais, j'ai mal parlé à Jordan et j'ai payé. Et ben oui, il l'a pris personnellement.
Mais en fait, là, il parle mal. Enfin, il a mal parlé à Jordan, mais en fait, c'est dans The Last Dance où il parle mal. Enfin, il parle pas mal. Il dit à Jordan dans le documentaire, il dit ouais, finalement, j'aurais dû défendre d'entrée de jeu parce qu'en fait, il est blessé. Et son coach lui dit bah tu vas pas te mettre sur Jordan parce que t'es blessé donc on va t'économiser.
Alors, c'est le meilleur défenseur de la saison.
Et voilà, et alors ils prennent 3-0 et au bout d'un moment il a dit bon là il va falloir que je tente quelque chose, j'oublie la blessure et je vais sur Jojo.
Il
gagne le match 4, il gagne le match 5 avec les stats un petit peu en baisse de Jordan. Bon après ils se font détruire sur le match 6 et il dira
match 3.
Non, ça fait 3-0.
3-0,
3-0
et 3-1,
3-2.
Justement, du système 3-1,
3-2, 4-2, ouais. Et donc, dans The Last Dance, il dira, voilà, j'ai arrêté Jordan. Et pour la petite histoire, il y a Ahmad Rashad, qui est le journaliste attitré de Jordan à l'époque, il n'y avait que lui qui avait le droit de faire les interviews de Jordan, qui, pour défendre Michael Jordan, il dit, mais vous savez ce qui s'est passé après le match 1 de ces finales? Donc, tout le monde lui demande non. Il dit, bah, Jordan a mis, je ne sais pas, 35 ou 40 points. Gary Payton, dans le couloir, après avoir pris une rouste, il a demandé les chaussures de Jordan comme souvenir.
Aïe.
Quelle erreur.
Deux erreurs, double erreur.
Parce double erreur,
il a provoqué.
Exactement.
Des coups de coude et tout, c'était aussi physique.
Il a
presque réussi à faire sortir Jordan quand même de ses gonds. Hein, parce qu'il tu le vois sur les images, notamment dans The Last Dance, très énervé.
Quand même. C'est un fabuleux défenseur, on disait, et pour la NBA de l'époque. C'est-à-dire
et ne pas avoir vu les coups de sifflet des arbitres.
Oui.
Il a mis du temps à prendre le dessus.
Et une stat folle cette saison sur Jordan, que j'ai vu. À l'époque, il n'y avait pas trop de load management. Jordan avait joué les 82 matchs de saison régulière plus tous les matchs de play-off. Il n'a pas loupé le moindre match cette saison-là. C'est fort. Hein. C'est
ouais, et si tu regardes les minutes doivent être hyper longues.
En fait, Pierre, tu es très très fort. Tu as fait une boucle parce qu'on a parlé de Wembanyama, tout ça. Et Gary Payton 2, son fils, donc, a contré Wembanyama. Il en était très fier parce que c'était le plus petit à avoir contré. Bravo. Alors,
ce quiz ne sera pas une boucle, mon cher frère.
C'est dommage.
Il est un cercle, ça sera un cercle.
Ah, c'est intéressant. Dans les joueurs en activité.
Le mec sauce sa question. Ah, c'est intéressant.
Bah, qu'est-ce qu'elle est bien écrite, cette question, franchement.
Ça prend pour Julien Lepers.
Ah oui.
Ouais.
Ah, je sais qui c'est.
Moi, je sais pas.
Vous avez le cerveau abîmé, c'est pour ça, c'est tout.
Mais faites pas les paysans. T'es un mec de début de Chaumont, toi.
Pas vrai, c'est pas des poissons rouges, c'est des calamars.
Je l'avais lu en plus.
Mais c'est des calamars. Steve, ils sont là. Ils attendent que tu donnes la bonne réponse.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette.
Fred, tu me regardais comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge.
Mais c'est pas vrai.
Ça arrive parfois que vous laissiez trop Steve
ouais, mais
dérouler.
Quoi,
hein.
Je me rends compte que tu viens de m'insulter deux fois et que je t'ai pas tué encore.
Non, c'était pas des insultes, non, c'était pour vous piquer, pour mais vous réveiller. Marche. Et souvent, ça marche avec toi, Fred.
Ok.
Alors, c'est un quiz spécial OKC et Seattle Supersonics. Ok, c'est bon pour tout le monde.
Ouais.
On démarre par la première saison à Oklahoma City, 2008-2009. À part Durant et Westbrook, chacun votre tour, vous allez me citer un joueur. Voilà, pour démarrer comme ça, saison 2008-2009. Ni Westbrook, ni Durant, Fred.
James Harden.
Mais non, pas en 2008-2009.
Non, alors.
Steve.
Il arrive en 2012. Ouais.
Nick Collison.
C'est bon. Alex.
J'en ai zéro.
Oh, c'est mignon tout ça. Allez, un point seulement pour Steve. Alors, je vous ai mis une petite question basket pour démarrer.
Bah,
C'était un point comme ça, parce que sinon c'est dur. Hein. Ouais. C'est dur, il y a des Kyle Weaver, des Earl Watson,
pas Cole Aldrich,
des Chris Wilcox.
Il y avait Sebalocha.
Il y avait Sefolosha, absolument. Ah oui. Il y avait Nedad Kristic aussi que tu aurais citer. Bref, Sean Livingston. Bref. Ouh. Alors, je vous ai mis un peu de basket au départ parce qu'en vérité, en vérité, ça va être un quiz culture générale.
Allez.
OK. Pour démarrer au moins. On commence par un mini blind test dans le thème et le Thunder. Premier extrait. Just a young gun with a quick
fuse. I was uptight. Qui chante ? McLemore ?
Non.
Ça aurait pu.
Ouais, c'est récent. Hein.
Oh, les salauds.
Je l'appelle, c'est pas celle-là.
Je connais pas. J'aime.
Machin Dragon.
Imagine Dragon.
Imagine
Dragon. Ah, yes ! Merci, Steve.
C'est terrible.
C'est terrible. C'est la vraie passe d'aise à l'adversaire.
Ah là, c'est terrible.
C'est bon, premier
mais
point.
Mais quel rapport, en fait, Chamba ?
Thunder.
Ah, c'est le type de la chanson, c'est Thunder.
Okay. Allez, deuxième extrait.
On a mal, là, je te le dis tout de suite. Hein. Plus en musique, moi.
Van Halen ?
Non !
ACDC.
ACDC, ouais.
Quand même, merci. Van Halen, il a dit qu'on...
Tu sais que j'ai trop l'OM
si
dans la tête.
Si je fais écouter ça à Eric, il va te massacrer. Eric Dimeco du Super Moscato Show. C'est ACDC, bien sûr, Thunderstruck. Vous en voulez encore ?
Ouais.
Il y en a plus.
Non.
Il y en a plus.
Moi, non plus, mais... Donc, tout le monde a un point.
Pourquoi tout le monde ? J'ai deux points, moi.
Ah non, c'est pas Alex
qui
a dit ACDC.
Non, j'ai zéro. Là.
Donc deux points pour Steve, un point pour Fred, zéro pour Alex. Alors c'est fini pour la musique, mais on continue sur la culture générale. Sonic.
Le sourire carnassier qu'il a là.
Sonic, le personnage de jeu vidéo ?
Sonic the Hedgehog, absolument. Le tout premier jeu sort en 1991.
Sur Mega Drive.
Master System.
Sega Mega Drive, c'était Megadrive. La question et c'est donc la bonne réponse, Fred. Bravo. Deux
points.
Moi,
je suis trop gentil, j'attends les questions.
Ah oui. Non, mais ici, c'est pas comme ça.
Ah ouais, ici, là.
C'est
la jungle de ouf.
La Sega Mega Drive et Sonic the Hedgehog, c'est quand même mythique, ça. Hein.
Ah oui, bien sûr.
T'as dû y passer des heures, toi, non ?
Non, je suis plus Nintendo, moi.
J'étais Mario aussi.
Il y avait Alex Kidd. Qui se rappelle d'Alex Kidd comme
jeu ? Bien sûr,
Alex Kidd.
La... Sonic, ça allait trop vite.
Il y a une chanson sur les hérissons.
On continue ?
Sur les hérissons ?
Ah, bravo, Steve. Si tu veux, on le fait. Un vrai ou faux sur les hérissons ?
Pour de vrai ?
Allez.
Tu l'as fait ?
Fred.
Tu l'as fait ?
Oui, chacun votre tour.
Mais non.
Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Le hérisson est un excellent auxiliaire de jardin qu'il vaut mieux accueillir dans son jardin que chasser. C'est tout à fait vrai car il se nourrit de limaces, d'escargots, de chenilles, de larves et donc il protège vos plantes.
Par contre, très inquiétant, le hérisson quand il marche sur le carrelage, hein, ça fait un bruit affreux, on a l'impression qu'il y a des voleurs qui arrivent.
Mais
voilà,
c'est ça la magie de Basket Time.
C'est la magie de la campagne de Limoges surtout.
Stephen, vrai ou faux, le hérisson souffre de la pollution plastique.
La pollution plastique ? Bah non, parce qu'avec ses épines, il perd ses trucs, donc je dirais non.
C'est pourtant vrai, car il s'étouffe dans les sacs en plastique.
Ouais, oh, bah il fait des trous, après il respire.
C'est une victime importante de la pollution, puisqu'il meurt aussi des produits anti-limaces, des insecticides, et donc il faut protéger le hérisson. Troisième question, vrai ou faux à Alex, la chasse au hérisson est interdite en France.
Faux.
C'est vrai, car certains le consomment. Oui, ça se mange le hérisson. Oui, c'est une espèce protégée en France.
C'est les cure-dents.
Et Fred, une fois de plus, sur les questions animalières, vous a pris un point.
Vous régale.
Et donc, c'est Fred qui est en tête avec 3 points. Steve 2, Alex 0, on va revenir à un moment, ne t'inquiète pas, au basket.
Non, mais Mega Drive, vous l'avez, mais il répond avant même la question.
Pour finir sur la culture générale, là, c'est plus dur. La célèbre Route 66 aux États-Unis traverse l'Oklahoma de part en part, quasiment. Vous allez me citer chacun votre tour un autre état traversé par la route 66.
De part en part ?
Non, juste qui passe par
chacun
l'état.
Chacun notre tour, ok.
Voilà, vous savez, vous connaissez le principe, ça va d'est en ouest. Hein. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres états. C'est Alex qui n'a pas de point qui commence.
Nevada.
Wow. Nevada.
Salopio,
c'était moi. Moi, je crois que c'était le seul que j'avais.
Je savais que vous aviez celui-là.
Le Nevada, messieurs, dames.
En fait, j'en ai d'autres, c'est pour ça que je... Normalement.
Les Nevada ? Vous êtes sûr de vous là ?
Ah non, je sais pas. J'ai dit oui.
Non, ce n'est pas bon le
c'est
Nevada.
Pas bon, Nevada ?
Non, ce n'est pas bon le Nevada.
C'est dommage.
Donc, tu ne marqueras pas de
donc
point.
C'est vraiment
Alex.
La loose.
Fred.
Ouais, vraiment.
Bah, ils avaient le même que moi.
C'était réfléchissez.
On avait un autre. L'Arizona,
pas, j'en avais un c'est autre. Bon l'Arizona, bien sûr. Steve.
Si ça passe en Arizona, ça doit passer au Texas, non ?
Et ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est bon. Fred, regarde, imagine la route, la craque, comment elle fait. Elle part de l'ouest, elle va...
À oui, j'ai compris le principe. Hein. Mais...
Donc, à côté de l'Arizona, il y a quoi ?
La Californie.
Exactement, bravo. Ça part de Californie et ça va jusqu'en ?
Ça va jusqu'en Californie, ça va jusqu'en...
Jusqu'en ?
Illinois.
Illinois.
Exactement. Mais bravo. Vous êtes bon.
Il fallait que je montre que j'avais une réponse quand même, puisque je vais finir à zéro ce quiz. Donc
félicite, la géographie des États-Unis, c'est pas simple.
Non, en plus, j'ai dit Nevada alors que j'avais déjà Illinois. C'était pour en avoir un.
Il reste 3 états sur cette route.
Ouais,
Fred.
Tu m'as perdu là.
Non, mais tu peux peut-être en trouver un. Peut-être quand même, si. Il y en a un que tu peux trouver, je pense. Allez, tente quelque chose.
Je sais pas, j'aurais dit Utah, mais c'est...
Non, Utah,
non, mais c'est à l'opposé. C'est le seul qui me venait à la tête.
Steve.
Le Kansas.
Le Kansas, exactement.
Il n'y a pas le Wisconsin, non ?
Il n'y a pas le Wisconsin, les deux autres, c'était Nouveau-Mexique et Missouri. Okay. Et donc, là, ça va être dur pour toi, Alex.
Ça part de l'Illinois, en fait.
Ça part de Californie-Illinois.
Ouais. C'est pour ça que j'avais Illinois.
Mais 5 j'avais points aussi. Pour Steve, 5 points pour Fred.
Il y a des rats dans le Missouri.
0 pour Alex. On revient au basket. Je vous donne des clubs, vous trouvez le joueur. C'est bon ?
Oui, bah là, c'est plus simple. Ouais.
C'est plus classique, disons. L'AS Lapénoise, Villeneuve Basket, JSA Bordeaux, le Centre Fédéral de Basket.
Ousmane Maurice.
Olivier Sarr,
Boris Diaw, hein.
Ousmane Dieng. Ousmane Dieng. Le prochain, c'était New Zealand Breakers et OKC. Oui. Ousmane Dieng.
Je suis vraiment à la rue parce que j'avais pas compris même la question. Enfin, j'avais pas compris ce qu'on faisait en fait.
Arrache tout en G-League.
Mais qui a une chance de
il joue des matchs, mais après il joue dans une bonne équipe.
Lors de la finale 2012.
Si Missy ne joue pas,
on peut s'arrêter à ce qu'il vient de dire. Après, il joue dans une bonne équipe. Donc jouer dans une bonne équipe, c'est difficile. Bon, pour Chet Holmgren, c'est pas grave.
Non, continue. Mais non, c'est une bonne équipe, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence.
Oui, il y a concurrence. Donc c'est encore plus dur.
C'est reparti.
Missy, tu es un bon joueur.
C'est reparti.
Il n'y a aucun problème. Ça me va.
Lors de la finale 2012, il faut en parler, c'est un spécial OKC. OKC Miami. Qui est le seul joueur de l'effectif de Miami qui n'est pas américain ?
Joel Anthony, canadien.
Non.
À quoi ?
À quoi ?
Joel Anthony, il est canadien, non ?
Oui, mais un canadien, c'est un américain.
Pas vraiment. Attends, le seul
canadien, c'est un américain.
L'effectif de Miami ? Ah, on me dit que tu as raison. Alors, pourquoi est-ce que j'ai cette mauvaise information ?
Désolé, alors, c'est important quand même, les mots qu'on emploie, quand on dit américain... C'est d'Amérique.
Ah, tu joues américain, Team USA et Canada, ils s'affrontent.
Oui, mais le continent, il s'appelle l'Amérique en fait.
Le continent, il a dit américain, la nationalité américaine.
Bon, tant pis. Tant pis. Joël Anthony, c'est ça ? Tu m'as dit, mais a gâché ma question celui-là. Je vais lui dire deux mots celui-là. Là. Bon, c'était Ronny Turia, vous êtes nul quand même. Vous auriez pu trouver Ronny quand même.
Je le savais de ouf.
Le but, c'est de parler de Ronny. Tu le savais de ouf en plus. C'est pas juste, tu le savais.
On peut pas prendre ton stylo et me mettre un point de
touche. Je te mets un point et tu mènes 7-5, mon cher.
T'as vu, il dit même plus mon score à moi.
Non, je peux pas. J'annule la question parce que la réponse n'est pas correcte, puisque la question n'est pas correcte. Je sais pas.
Alors, honnêtement, je vais dire la vérité. le mec, il arrive à trouver un truc qui est plus fort que la question, tu ne mets pas de points. Quelque part, c'est un peu injuste. Tu vois, et je joue contre
moi. Je donne un point à Alex pour vous faire plaisir.
Je te le rends, Steve. Si t'en as besoin à la fin, je te le rends.
Il n'y aura pas besoin, t'inquiète.
Quel ancien joueur d'OKC, finaliste en 2012, toujours, vient d'être nommé MVP de la 11e journée d'Euroleague?
Putain, comment il s'appelle?
Serge Ibaka.
Ibaka, ouais. Voilà.
Bah oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Ibaka quand même.
Oh. Alors, tu sais pourquoi je trouvais plus son nom? C'est à cause de Jacques Monclar. Parce que Jacques Monclar, il l'appelait Ime Udoka pendant je sais pas combien d'épisodes de NBA Extra. Donc j'avais Ime Udoka dans la tête en fait.
Il cartonne quand même au Bayern, Ibaka. Il a mis du temps un peu.
Il a mis du temps à démarrer, mais là il a fait un énorme match. Il a été bon à l'Astrobal, il était correct. Il a mis 2-3 coups de coude.
Et enfin, 3, 4, 5, 6.
Présence, on est là.
Non mais c'est bon, c'est 7 points pour Steve, donc il n'y aura pas d'égalité. J'avais une charade pour vous départager, il n'y en aura pas besoin. Vous devinez un joueur, un joueur drafté en 14e position en 2003 par Seattle. Non, c'est, vous devinez un joueur.
2003,
la draft 14e. De LeBron, Carmelo.
L'année suivante, il devient titulaire, toujours donc à Seattle, au poste de meneur, et où il se trouve être le parfait complément du duo Ray Allen-Rashard Lewis, notamment grâce à sa qualité de passe. Il fait 3 saisons à plus de 10 points et 5 passes de moyenne. Et puis ensuite, il décline assez rapidement alors qu'il était très apprécié à Seattle. Il est échangé lors du déménagement à OKC après le démantèlement de cette équipe, Allen, Lewis et ce troisième larron. Et il ne retrouvera plus de rôle majeur, que ce soit à Milwaukee, à Minnesota, à Charlotte ou à Orlando, où il arrête sa carrière en 2015. Est-ce que vous l'avez, le meneur de Ray Allen et de Rashard Lewis? Oui, tu l'as presque, Steve. Je sens qu'il vient là. C'est dans cette équipe là de.
Je sais pas.
J'allais dire de second couteau avec les.
Initial ou pas?
Initial. LR.
Lucrid Nour.
Bon joueur au moyen.
Très bon passeur. Mais manque un peu de qualité athlétique.
Disparu des radars.
Ouais.
Terminé.
Rid Nour.
C'est Steve qui a gagné le quiz, monsieur.
C'est Steve qui a gagné la blague. Il a gagné la blague aussi. On peut pas. On peut que s'incliner.
Il y a un moment. Philippe à la charade quand même. Un petit bonus.
Vas-y. C'est simple. C'est soit vous la trouvez tout de suite, soit je vous donne la réponse la semaine prochaine.
Prénom et nom.
Donc mon premier, c'est bien fait pour toi. Mon deuxième fait du cinéma quand il louche et de la télé quand il est au boulot. Mon deuxième fait du cinéma quand il louche et de la télé quand il est au boulot. Mon troisième est un liquide.
Chez Gus Alexander. Chez Gilles Boulot, Gilles Lelouch.
Mais énorme.
Oh là là.
C'est ça.
Bravo, Steve. Bravo. Mon quatrième était encore plus vénère. Hein. Mon quatrième est une queen quand il s'agit de mode. Et le frère de Willy s'il joue au foot à Liverpool.
Alexander.
Gorgeous.
Gorgeous, c'est quoi?
Alexander McQueen. Et...
Ah oui.
Et...
Alexander McQueen.
Alexander Arnold. Excusez-moi, j'ai du mal à finir.
C'est
trop compliqué cette charade. À la semaine prochaine.
C'est perdu. Basket Time.